Les tendances sont un baromètre politique, économique et social. Au milieu des années 20, aux États-Unis, George Taylor, un économiste de l'université de Wharton, théorise le Hemline Index ou Index de l'ourlet. À l'époque, il observe que la prospérité économique s'accompagne de l'augmentation des ventes de bas de soie et du raccourcissement des jupes des femmes. Et puis patatras, avec le crash boursier de 1929, les gambettes se couvrent. Jupe longue rime avec récession. En 2025, les réseaux sociaux célèbrent donc aujourd'hui des silhouettes austères, du beige, du propre, du neutre et du refus de la couleur. Sur les podiums, les motifs s'effacent, les corps sont blancs et furieusement maigres. Et si la mode avait prédit la victoire du conservatisme actuel ? Mon invitée, elle nage à contre-courant, armée d'une rage créatrice. Bonsoir Jeanne Friot.
Bonsoir.
Vous êtes une styliste de 30 ans, pionnière d'une mode à la fois éthique et non genrée. Vous êtes aux manettes de votre propre remarque, qu'il s'agisse d'habiller Madonna, Jeanne d'Arc aux Jeux Olympiques ou de célébrer la communauté queer sur les podiums, votre travail allie inventivité artistique et engagement politique. Fringues et votes, il va en être question en troisième partie d'émission. On a eu envie, Jeanne Friot, de vous présenter Amélie Zimmermann, agrégée de philo. Elle viendra décrypter avec nous ce que 2025 raconte à travers ses tendances. À 18h30, comme tous les soirs, c'est le Panorama Culture. Au programme, Donald Trump reboulonne, on rit avec les chapeaux ronds des Bretons, on se lance dans une salsa d'hommage et on marche sur la Paris Fashion Week. Alors sortez vos plus beaux kilts, brûlez vos t-shirts monochromes, ce soir on s'empare des podiums, le point levé, le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Jeanne Friot, pour ceux qui ne connaissent pas votre univers, est-ce que vous pouvez me décrire votre marque, ses matières, son esprit en quelques mots ?
Oui, je dirais engagée, colorée, politique.
Et en termes de matière ?
En termes de matière, il y a beaucoup de matières upcyclées ou recyclées. Du coton, de la soie, du vinyle, des choses qui brillent.
On va remonter aux origines de vos collections, mais avant ça, on passe au moment test, au moment triangle, rond ou carré. J'aimerais savoir quelle estivante vous êtes, Jeanne Friot. C'est le moment interview haute saison. Alors, le vêtement de l'été, selon vous, Jeanne Friot, c'est quoi ? La pièce.
Le t-shirt, je dirais. Un t-shirt avec un message.
Comme vous avez sur vous, il y a écrit « Trans Lives Matter », c'est un t-shirt de votre collection.
Ouais, complètement.
Vos vacances, elles se passaient où et comment quand vous étiez enfant ?
Dans le sud de la France. Pour moi, c'est beaucoup la mer, les vacances, la nage, la cohésion avec l'eau. Et elle se passait bien, je pense.
En famille, du coup, avec vos parents ?
Ouais, en famille, avec mes parents.
Et aujourd'hui, comment se passent vos vacances ? Où est-ce qu'il se passe vos étés aujourd'hui, Jeanne Friot ?
Il se passe un peu dans mon atelier, parce qu'on est un peu moitié-moitié, donc on travaille encore pas mal pendant les vacances, pendant l'été. Et puis pareil, retour à la mer, retour dans le sud, à Marseille aussi.
L'été est-elle la saison de l'amour, selon vous ?
Oui, complètement. Ça s'est passé cette saison-là, je ne sais pas laquelle c'est.
Alors, on va se plonger dans votre univers, mais avant ça, j'ai envie de vous replonger, vous, dans l'été de vos 20 ans. On est en 2015, c'est le dernier été d'insouciance, de terrasse et de fête avant les attentats terroristes de novembre. Kanye West vient de faire défiler sa première collection de mode et le verbe « chiller » est encore dans toutes les bouches, mais il se passe des myriades d'autres choses. Écoutez bien.
Ce matin, la Cour suprême a reconnu que la Constitution garantit l'égalité du mariage. Les juges ont réaffirmé que tous les Américains ont droit à une égale protection de la loi. C'est une victoire pour les couples gays et lesbiens qui se battent depuis si longtemps pour leurs droits civiques de base.
Tu montes une pièce adaptée d'un bouquin publié il y a 60 ans et toi tu montes ça pour un petit millier de vieux blancs pleins de pognon dont le seul souci c'est de trouver un bon resto pour aller dîner après le spectacle. Tout le monde s'en fout complètement sauf toi.
Manuel Valls a donc dégainé l'article 49.3 pour faire passer la loi Macron.
Blog, Facebook, Twitter, les réseaux sociaux frôlent l'indigestion. La faute à une mode, immortaliser le contenu de son assiette. La pratique a même un nom, food porn.
Alors, on a entendu Cheerleader, Domi, Birdman d'Alejandro González Iñárritu, Uptown Funk et la mode du food porn qui vous a fait sourire, Jeanne Friot. Vous vous souvenez de l'été de vos 20 ans? Est-ce que vous étiez en stage? Vous étiez où à 20 ans?
Je pense que j'étais en stage chez APC, si je me souviens bien. Donc j'étais à Paris, ouais.
Et pourquoi APC? Quels souvenirs vous gardez de cette période et de cette maison?
Plein de souvenirs. Je pense que c'était hyper formateur. Je me souviens, c'est la première fois que je suis rentrée dans un studio de création de mode, en fait. Donc regarder les gens, regarder comment on travaille, comment tout ça fonctionne. Donc c'était un bel été, ouais.
Et l'ADN de cette marque, elle vous plaisait pourquoi?
Parce que je la connaissais, parce que je voyais concrètement des gens habillés dans la rue en APC et j'avais envie de savoir comment ça fonctionnait de l'intérieur.
Avant de parler de votre parcours, Jeanne Friot, des jupes tartan de votre grand-mère jusqu'à Madonna, on reste en 2015 avec le rock psychédélique de Tame Impala. Let It Happen, on laisse venir sur France Inter. C'était Let It Happen, extrait de l'album Currents qui fête ses 10 ans, alors joyeux anniversaire.
France Inter. Le mag de l'été.
Je ne crois pas me rappeler de comment on en est venu à utiliser des épingles à nourrice. Je sais qu'on s'est mis à déchirer les vêtements. Les gens commençaient à en avoir marre des hippies et cherchaient autre chose. And looking for something else. And this is in 1970. Et ça, c'était en 1970. Et je dirais que c'était le début d'une période de nostalgie. Les murs étaient entièrement recouverts de pages arrachées de magazines de pin-up des années 50. Les femmes portaient souvent des vêtements déchirés, comme si elles revenaient de la plage. Et on a commencé, nous aussi, à déchirer les vêtements.
Jeanne Friot, je voulais qu'on commence par elle et son accent britannique. Vivienne Westwood, styliste ultra-punk qui a habillé les Sex Pistols. Reine du kilt et du tartan, elle est morte en 2022. Vous la citez très souvent comme inspiration. Pourquoi elle ?
Déjà parce que c'est une femme et qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui avait une approche de la mode ultra politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, et là on l'entend déjà, il n'y a pas une phrase qui sort de sa bouche qui n'est pas tournée vers l'éco-responsabilité déjà à l'époque ou d'autres sujets assez importants. Et puis il y a aussi tout ce mouvement punk dont elle est presque la façonnière. Je trouve que c'est un lien entre la mode et la musique qui est vraiment un exemple des liens tissés entre ces deux médiums.
Il y a deux autres femmes qui ont construit votre identité. Toute petite, vous saviez peut-être déjà que vous alliez travailler dans la mode. Il y a ces deux grands-mères qui s'appelaient Micheline,
ouais.
Deux. L'une Chanel classique, même Burberry, l'autre plus excentrique à la Mugler. Comment ces influences qui sont un peu en contradiction ont construit en fait votre travail actuel ?
Je pense que j'ai grandi avec ces deux figures-là et aujourd'hui on les retrouve dans mon travail. L'amour du tartan, le kilt, les plissés.
Donc ça c'est pour la...
C'est plutôt ma grand-mère qui était plus classique et mon autre grand-mère qu'on appelle Mie. Mie la folie, c'est plus un peu toutes les épaules, la montana que j'ai récupérée de chez elle. J'ai récupéré beaucoup de Sonia Riquel aussi de chez elle avec des épaules ultra fortes, etc. Donc je me suis inspirée aussi de cet endroit-là.
Vous êtes fille d'un père artiste qui travaillait à la maison et d'une mère agente d'artiste toujours en vadrouille. On va d'abord parler de votre maman. Elle a accompagné plusieurs artistes comme James ou Orelsan. C'était quoi votre enfance avec cette mère plutôt bien entourée ?
Bah, c'est une enfance très joyeuse dans les concerts, dans les expositions. Je pense que ça a façonné aussi mon regard d'être tout le temps en rapport direct avec la culture et de voir aussi la scène rap commencer à se monter, à se développer, de voir Diam, c'était aussi une femme qui a été emblématique dans le monde du rap et il y en a pas beaucoup
d'exemples. Et qui a partagé votre enfance.
Complètement. Donc non, c'était assez joyeux.
Et côté père, alors lui, il vous faisait écumer les galeries et les bistrots, c'est bien ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça ?
Les galeries, c'était assez chouette. Il faisait des expositions où j'étais là quand j'étais petite. J'ai fait des peintures avec lui quand j'étais toute petite. Donc ça m'a donné une sensibilité au monde de l'art. Comment est-ce qu'on construit une œuvre d'art ? Un regard sur la couleur, je pense, qui est particulier dans mon travail aussi. Et le bistrot, moi, je buvais des grenadines et je les écoutais parler d'art. Donc c'était un peu le lien entre la galerie qui est un peu plus fun, quoi.
Et à cette époque-là, pendant l'enfance, vous avez quel rapport aux vêtements et surtout, est-ce que vos parents vous donnent une liberté dans l'habillement ?
Oui, j'ai toujours un rapport par ma grand-mère qui était plus classique parce qu'elle me montrait l'intérieur des vêtements, elle me disait regarde comment c'est fait. Il y avait toujours ce rapport sur l'intérieur des
vêtements.
Sur
les coulisses, oui.
Ouais, sur les coulisses, vraiment l'ossature. Donc ça m'a toujours intéressée. J'ai tout de suite compris que c'était un jeu aussi et que les talons ça représentait quelque chose, le punk ça représentait quelque chose. Donc j'ai toujours exploré un peu ce que c'est qu'être représenter la féminité ou la masculinité à l'intérieur des vêtements et on m'a toujours laissé libre de faire ça.
Donc vous vous habillez comme vous vouliez à l'époque ?
Comme je voulais, j'avais toutes les couleurs de cheveux possibles, je pense que j'ai fait tout l'arc-en-ciel. Et c'était ok quoi, ma mère savait pas trop quelle couleur c'était le jeudi ni le vendredi, mais ça la faisait plus rigoler qu'autre chose.
Vous dévoriez les livres quand vous étiez petite et puis vous découvrez bien avant que toutes les librairies aient leurs rayons féminisme et queer, la littérature queer justement. On peut citer Virginie Despentes ou Monique Wittig, c'est ça, ça a été une vraie découverte pour vous ?
Complètement.
C'était à quel âge ? C'était à quelle période ?
Je pense à partir de... J'ai toujours lu énormément, ça a toujours... L'été, c'était vraiment un moment particulier pour moi pour ça, parce que j'emportais une vingtaine de livres dans mon sac et je passais toute la journée à lire, quoi. Et je pense autour de mes 14 ans, j'ai commencé... 12 ans, j'ai commencé à lire Simone de Beauvoir, à comprendre ce que c'était, à rentrer par ce biais-là, et après, vers mes 14 ans, à lire d'autres écrivaines féministes plutôt queer, plutôt engagées, comme Wittig, comme Despentes, comme Maggie Nelson et d'autres encore.
Justement, Maggie Nelson, autrice et poétesse américaine, on a eu envie, Jeanne Friot, de vous faire lire un extrait d'un de ses livres, ça s'appelle Les Argonautes. C'est une autofiction, mi-essai, mi-autofiction, qui raconte l'histoire d'amour entre l'héroïne et un homme transgenre. Je vous laisse nous lire cet extrait.
C'est parti. Lors de nos premières sorties officielles en tant que couple, je rougissais beaucoup. Je me sentais grisée par ma chance, incapable de contenir la certitude quasi explosive que j'avais vraiment obtenu tout ce que j'avais toujours désiré, tout ce qu'il y a à obtenir. Le beau, le brillant, le vif d'esprit, l'éloquent, l'énergique toi. Nous passions des heures et des heures sur le divan rouge, gloussant. La police du bonheur va venir nous arrêter si on continue comme ça. Arrêtez-nous, on est bien trop chanceux. Et si j'étais déjà là où j'avais besoin d'être ? Avant toi, j'avais toujours considéré ce mantra comme une façon de faire la paix avec une situation de merde, voire une catastrophe. Je n'avais jamais imaginé que ça pouvait s'appliquer à la joie aussi.
Merci Jeanne-Frey. Donc un extrait des Argonautes de Maggie Nelson. Comment cette littérature, elle vous transforme et elle influence aussi à vos collections ?
Je pense que Maggie Nelson, ça a été un déclencheur. Ce livre, c'est vraiment un de mes livres favoris. Parce que tout d'un coup, on parlait d'un sujet qui était concret pour moi, surtout du genre. J'ai commencé à lire Butler aussi. Ça a commencé à façonner... Ouais, Judith Butler. Ça a commencé à façonner mon regard sur le genre et à me poser la question aussi... de qu'est-ce que je suis en tant que femme queer, qu'est-ce que représente mon corps, et aussi de me dire toutes ces écrivaines lesbiennes et cette littérature féministe qui est immense en fait, parce que plus on la découvre et plus on commence à gratter dedans et c'est vraiment immense, on n'a pas la même possibilité dans la mode. Et je me suis dit, où est cette littérature queer dans la mode en fait que j'aime ? Parce que finalement, il y avait très peu de femmes. Il y avait Westwood, Sonia Rykiel, etc. Mais il n'y avait pas de femmes lesbiennes à la tête de maisons de mode. Et je me disais, c'est marrant, je n'ai pas de repères, de modèles. Et c'était une époque où on commençait à parler de l'importance des modèles, sur quand on grandit, etc., ce que ça façonne. Et je me suis dit qu'il était temps qu'il y en ait, quoi.
Bah, justement, en 2020, vous lancez votre propre marque à seulement 25 ans, dans un contexte difficile qui est celui... du Covid. Votre marque, elle porte votre nom, Jeanne Friot. Pourquoi ? C'est, j'imagine, pour donner plus de visibilité aux femmes. Pourquoi c'était important pour vous de poser votre nom ?
Oui, complètement pour ça. Ça a été une grande question aussi. Et je me suis dit... Je me souviens que j'étais allée voir une exposition au Palais Galliera avec ma compagne et il n'y avait que des femmes. Elle était ah là là, c'est dingue, toutes ces femmes qui créaient la mode à ces époques-là, les années 50, 60 et tout ça. Et aujourd'hui, on ferait la même expo, on n'aurait pas les mêmes noms, quoi. Donc je pense que oui, c'était important pour moi de faire résonner aussi le fait que je sois une femme qui fasse de la mode avec une marque qui porte mon nom, comme ont été les Rykiel, les Chanel, etc.
Il y a un parallèle qu'on fait souvent entre la mode et la cuisine au niveau de cette masculinité qui domine, c'est que les grands chefs cuisiniers sont des hommes, alors que la cuisine au foyer est dominée par les femmes. Ouais. Et pareil pour la couture. Comment vous expliquez-vous cette surreprésentation des directeurs artistiques masculins toujours aujourd'hui en 2025 ?
J'aimerais bien l'expliquer. Moi, je la questionne. Je pense qu'il est temps que les femmes arrivent au poste de pouvoir aussi à l'intérieur de ce milieu. Malheureusement, c'est pas tellement ce qui est en train de se passer en ce moment, mais en tout cas, le regard est en train de les questionner. Enfin, pour la première fois depuis 5 ans où je parle justement du fait que on est tellement de femmes derrière et il y a tellement peu de postes de direction artistique pour nous sur les grandes maisons de luxe. J'ai l'impression que ça fait à peu près 6 mois que tout d'un coup, les médias commencent à regarder la mode par ce prisme. Là et ça fait du bien aussi. Ouais.
Qu'est-ce que ça change que ce soit des femmes qui habillent plutôt que des hommes ?
Ça change tout parce que forcément nous, on projette pas les choses, on les vit aussi. Donc moi je sais que je construis des vêtements ou des chaussures en me disant je veux qu'on se sente comme ça à l'intérieur, je veux qu'on puisse bouger. Si je fais des talons, je veux qu'on puisse courir avec, je veux qu'on puisse passer la nuit 8h, 6h avec. Il y a cette notion de confort, mais évidemment le genre... Enfin, c'est forcément différent de créer des vêtements pour des femmes ou pour des hommes en étant une femme parce que le regard il est pas le même.
On va continuer à échanger, on va parler des Jeux Olympiques, de vos collections et de vos défilés, mais d'abord un petit panorama culture. Ça serait après une artiste elle aussi engagée que vous connaissez bien puisqu'elle a composé la BO de votre dernier défilé. On écoute Éloi dans son château fort.
Super.
Si vite que je mélange, je prends pas le temps de vérifier. Tu m'expliques, je dois laisser toi fuir. Elles sont pas de mérite, tout est riche. Je resterai sur le port si je mérite pas de guérir. Je crie tous les feux devant, je connais que l'errance. Le temps file, si vite que je mélange, je prends pas le temps de vérifier. Tu m'expliques, je dois laisser toi fuir. Elles sont pas de mérite, tout est riche. Je resterai sur le port si je mérite pas de guérir.
façon, j'ai plus la force. T'as trop tiré sur la corde. Le temps file, c'est vite que je m'élance. Je prends pas le temps de vérifier. Tu m'expliques, je vois les étoiles fuir. Elles ont pas de mérite, tout est riche. Je resterai sur le port si je mérite pas de guérir. Je crie tous les feux devant, je connais que l'errance. Le temps file, c'est vite que je m'élance. Je prends pas le temps de vérifier. Tu m'expliques, je vois les étoiles fuir. Elles ont pas de mérite, tout est riche. Je resterai sur le port si je mérite pas de guérir.
Château Fort, c'était l'hyperpop d'Éloi qui sera en concert au Festival du Cabaret Vert le 14 août et à Dijon le 29 août, Cabaret Vert, pas Cabaret Vert. Et on lui souhaite un bon anniversaire d'ailleurs.
Bon anniversaire.
Le mag de l'été. Constance Villanova. Sur France Inter.
Tous les jours à 18h33, c'est le mag de l'été. On passe en mode vigie culturelle. C'est le panorama.
Allô.
Oui.
Non, c'est pas nous.
Depuis 119 ans, les habitants du quartier de Judiciary Square à Washington côtoyaient la statue d'Albert Pike. Ce franc-maçon poète était un général sudiste. Il était d'ailleurs le seul confédéré à avoir encore un monument à son nom dans la capitale américaine. Cette nuit, la statue a été abattue, mise à terre par des manifestants antiracistes qui célébraient l'Abolition Day, qui commémore l'affranchissement des derniers esclaves. C'était le 19 juin 1865.
Juin 2020, à Washington, lors d'une manifestation du mouvement Black Lives Matter, des activistes font chuter la statue d'Albert Pike, suprémaciste blanc et général de l'armée confédérée au 19e siècle. Le 5 août dernier, le service des parcs nationaux américains a annoncé le retour du monument, une conséquence directe au décret signé par Donald Trump après son investiture. Le président américain remet à l'honneur un homme qui clamait que, je cite, « la race blanche était la seule apte à gouverner ». Le chef des États-Unis n'a pas fini de réécrire l'histoire. La planète depuis 70 ans. Eddie Palmieri, pianiste de jazz latino, s'est éteint à 88 ans. Premier artiste latino à recevoir un Grammy. Il avait mêlé salsa, soul et funk avec un style inimitable. Si son nom vous échappe, son morceau culte qu'on entend, Un Dia Bonito, générique, était le générique de l'émission Bananas de Patrice Blanc-Francard. Alors l'objet culturel du jour que l'équipe du MAG vous conseille n'est autre que la discographie de ce géant de la salsa. Eddie Palmieri a écouté et très fort.
Dis donc, bah, qu'est-ce que c'est que ça, là? Des betteraves en jus? Qui m'a apporté ça? C'est toi? C'est quoi, ça?
C'est des betteraves de mon potager.
D'accord, ok. Que t'as mis en conserve.
Exactement.
Ok, et tu t'es dit, ils vont aimer ça. Ben, ça fait plaisir, franchement. D'autant que c'est pas la saison de la betterave, on en a pas de fraîche en ce moment.
C'est de l'année dernière, en fait.
Ah, c'est de l'année dernière. Bah oui, c'est pour ça que je le dis, madame. C'est l'ironie. On va expliquer les vannes, hein, au fur et à mesure. Hein.
Alex Le Rossignol et sa bande partent en tournée bretonne avec le Braise Comedy Tour. Alex Le Rossignol, habitué de la bande originale sur Inter. Une virée entre blagues et beurre salé. 5 dates, 4 humoristes, un bus. Première escale à Créan le 12 août dans les Côtes d'Armor. Dernière à Flamanville le 17. C'est gratuit, enfin c'est au chapeau. Et toutes les informations de ces rigolos itinérants sont à retrouver sur Instagram. À déguster avec une grosse bolée de cidre.
When you arrive from Milan...
Lorsque tu es arrivé de Milan, je sais que tu n'avais pas le moral. Tu ne te sentais pas bien. Évidemment, nous savons que nous devons travailler sur nos mensurations. Mais tu l'as bien compris, nous ne voulons pas être maigres et malades. Nous ne le ferons pas pour la mode, mais nous savons que si nous voulons rentrer dans les vêtements, nous devons avoir les bonnes mensurations.
À rattraper aujourd'hui, Lydia a 20 ans, un corps d'ado et une agente qu'on vient d'entendre qui la menace doucement à la moindre prise de poids. Dans Mannequin, documentaire poignant de Lazare Timsit, on suit au plus près une jeune américaine paumée dans l'univers féroce de la Fashion Week. Elle enchaîne les castings, évite les coups fumeux des consoeurs et raconte une pression monstre. Un documentaire à rattraper disponible sur France TV qui gratte les paillettes d'une capitale de la mode écrasante. On est toujours avec la créatrice et talentueuse Jeanne Friot. Pendant vos stages, dans des maisons de couture, vous découvrez un monde de la mode qui va rimer avec gaspillage. Ne pas gaspiller, c'est un des socles de votre marque et de votre maison, Jeanne Friot. Comment vous faites ? Parlez-nous par exemple des stocks dormants que nos auditeurs ne connaissent pas.
En fait, moi, la question que je me posais, c'est comment produire différemment. Donc, on a une mode qui est complètement faite en France. Donc, c'est déjà un gros combat. Et après, je voulais vraiment commencer à poser la question des stocks dormants, justement, qui sont des tissus inutilisés, qui sont souvent dans des hangars ou qu'on brûle des maisons de luxe. Et on travaille, par exemple, avec Nona Source, qui est justement une société qui a décidé de reprendre tous ces tissus-là, notamment des maisons des LVMH et d'autres maisons de luxe, et de les remettre, en fait, sur le marché. Et toutes nos pièces sont faites à partir de ces stocks-là. Mais ça veut dire aussi que c'est une contrainte parce que quand on a un rouleau de 20 mètres, une fois qu'on a fait 10 pièces dedans, plus personne n'aura les mêmes pièces dans ce tissu-là. Mais c'est aussi ce qui donne de la rareté et pour moi un cachet assez unique à nos vêtements.
Vos collections, c'est des véritables manifestes. En 2023, votre défilé s'appelle Red Warrior.
Ouais.
Il s'est construit en parallèle de l'annulation, vous le dites, de la loi Roe versus Wade aux États-Unis, donc la fin de la légalisation de l'avortement dans certains États. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, cette collection, elle est arrivée juste après la mort de Vivienne Westwood aussi. C'était un moment assez particulier. Il y avait beaucoup de choses politiquement qui se passaient. Il y avait ce qui se passait aux États-Unis justement sur cette loi-là. Et il y avait ce qui se passait en Iran aussi à ce moment-là sur le corps des femmes. Et pour moi, c'était nécessaire de... Bon, c'était mon premier défilé. J'avais vraiment besoin de sortir de moi tout ce qui se passait à ce moment-là et de pouvoir dire nos corps doivent être libres en fait, et c'est assez incroyable que on soit encore là à se battre sur les mêmes choses que peut-être ce sur quoi nos grands-mères se battaient. Donc tout était rouge, c'était une collection entièrement rouge. Il y avait aussi ce que je trouve intéressant dans le rouge et qui est devenu petit à petit notre marque de fabrique et qui est aussi la vôtre.
c'est le studio rouge de France Inter.
Le studio est complètement rouge. C'est aussi un signal d'alarme, c'est aussi le sang, c'est aussi l'amour. Enfin, il y a beaucoup de pouvoir dans cette couleur. Donc, c'était une manière d'interroger et de questionner sur le premier défilé qu'on a fait, ouais.
Des corps libres, vous le dites, et un besoin de corps plus libre, mais pourtant, vous vous êtes fait connaître avec un symbole qui, dans la tête, ne peut ne pas rimer avec liberté, c'est la ceinture. Pourquoi la ceinture ?
Parce que c'est réglable. Donc si, c'est une manière d'être libre, la ceinture. Parce que c'est réglable, donc réglable à plusieurs corps. C'est un accessoire que j'aime beaucoup détourner pour apporter sur le vêtement.
On pense à vos robes faites de ceintures très larges, bustiers.
C'est ça. Ça a vraiment, dès le début, c'était notre marque de fabrique. On a habillé Madonna avec cette robe-là. Katy Perry, on en a fait pour Beyoncé aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment devenu notre ADN. Et petit à petit, on façonne aussi notre savoir-faire autour de cette ceinture. Au début, c'était que des ceintures recyclées qu'on venait modeler autour du corps. Aujourd'hui, elles sont recouvertes, elles sont cousues à la main pendant des heures et des heures. Enfin, voilà, c'est aussi petit à petit comment est-ce qu'on peut développer notre vocabulaire autour de ce thème-là. Mais il y a aussi quelque chose du cuir. On trouve beaucoup de ceintures recyclées, en fait. On en trouve de moins en moins parce qu'on en cherche toute la journée aussi, nous. Mais il y a vraiment quelque chose de fétichisme. Enfin voilà, la ceinture est assez intéressante sous tous ses accès.
Et puis il y a eu l'aventure Jeux Olympiques.
Et ce costume que vous venez de voir, qui a été fabriqué et fait par Clara Daguin et la Maison Dior, et nous retrouvons une cavalière.
Oui.
Nous rentrons dans le tableau Solidarité avec cette cavalière qui s'élance au galop sur la scène. Ce cheval mécanique, elle est drapée des anneaux olympiques. Qui est-elle ?
Vous avez été appelé par Daphné Burki et Thomas Joly pour l'un des tableaux les plus forts de la cérémonie d'ouverture l'été dernier des Jeux Olympiques de Paris. Vous nous racontez, c'était quoi la commande?
C'était quoi la commande? C'est assez chouette d'entendre la voix de Daphné ce soir-là. La commande, c'était... ils sont venus justement pour mon travail autour de la ceinture, aussi parce que je suis une femme engagée politiquement, etc. Et ils m'ont expliqué le thème de Jeanne d'Arc, que c'est être une femme qui allait petit à petit rallumer la ville, que c'était assez aussi symbolique en termes de sens féministe, etc. Ils m'ont laissé un peu libre créativement, enfin même très libre créativement, et c'était assez touchant parce que moi, quand on m'a parlé de cette scène-là et comment ça allait se dérouler, j'ai vu mon histoire aussi pendant ces 5 ans de marque, une femme seule, moi je suis pas à cheval mais je suis à vélo, mais c'est pareil, voilà, qui combat petit à petit, qui lâche rien et
qui entend des voix peut-être,
qui entend des voix souvent, parfois, mais voilà, je trouve que c'était assez symbolique et j'étais complètement libre et c'était aussi un moyen assez un moment magique pour moi, parce que en tant que jeune créatrice, on n'a souvent pas beaucoup de moyens, on fait souvent avec les moyens du bord, on n'est pas dans une économie ultra grande comme des grosses marques de luxe, même si on en fasse deux. Et pour une fois, j'ai eu l'occasion d'avoir des moyens de confectionner une tenue qui était entièrement ce que je voulais, d'avoir un artisan qui s'appelle Robert Mercier, qui est un artisan du cœur français incroyable, que j'ai pu emmener avec moi sur cette histoire et de pouvoir vraiment réaliser jusqu'à la fin ce que j'avais souhaité.
Et là, tout explose, vous avez une visibilité, j'imagine, de dingue après cet événement-là. Lors de votre dernier défilé, donc le défilé printemps-été de 2026, vous avez fait, Jeanne Friot, défiler exclusivement des mannequins en transgenre ou non-binaire. Pourquoi c'était important pour vous de mettre en lumière cette communauté ?
Parce que c'est primordial pour moi, notamment en ce moment. J'ai commencé cette collection il y a 6 mois et je sortais de mon autre défilé donc de janvier dernier et il y avait toutes ces lois aux États-Unis que Donald Trump était en train de créer sur les personnes trans.
Donc liberticide pour la communauté transgenre.
Complètement liberticide pour la communauté, d'arrêt de retirer leur genre sur un passeport, de plus pouvoir avoir accès à leur transition, etc. Et c'était déjà un sujet qui était primordial pour moi parce que j'avais déjà commencé à travailler là-dessus un an avant sur la collection été 2025 et commencé à dire attention puisque la collection s'appelait Sirens. Et là, j'étais là, bon, c'est vraiment plus possible en fait. Enfin, il y a quelque chose qui, pour moi, est de la nécessité de mettre en avant cette communauté, de dire que, en fait, oui, elle existe, elle a toujours existé, elle continuera à exister, et surtout de mettre un moment de joie, parce que on a tous besoin d'un peu de joie, je pense, en tant que personne humaine, mais aussi de communauté queer qui souffre beaucoup en ce moment. Et j'avais envie de leur dire, voilà, ce moment, c'est pour vous. Je peux pas faire grand chose, mais ce que je peux faire, c'est ça, c'est parler de ce que c'est qu'être une personne trans aujourd'hui et vous mettre en avant parce que vous en avez besoin.
On va parler de politique justement et de vêtements avec notre prochaine invitée, Amélie Zimmermann, agrégée de philosophie. Son terrain, c'est la mode à elle aussi. Et puis on va parler de la droitisation des tendances. On reprend après Lorde qui signe son grand retour après 4 ans d'absence avec What Was That sur France Inter. A place in the city, a chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, or oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you and all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight, well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? With me when I'm out with my friends,
the painted faces that talk current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat when in the light down, baby, so bright I face reality. I try to let whatever has to pass through me, pass through. But this is staying a while. I know it might not let me go. Empty and bay in the back garden, blow our pupils up. We kiss for hours straight. Well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hairs, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Oh, baby, what was that?
C'était Lord qui renoue avec l'électropop de ses débuts dans What Was That, extrait de Virgin, son quatrième album.
Le mag de l'été sur France Inter.
Pour ceux qui nous rejoignent, je suis toujours avec vous, Jeanne Friot, créatrice géniale qui a habillé entre autres Madonna, Burna Boys ou la fameuse Emily de la série qu'on adore détester, Emily in Paris. Et nous avons été rejointes en studio par Amélie Zimmermann. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez étudié la philosophie et le monde de la mode, c'est votre champ d'analyse préféré. Sur YouTube et Instagram, vous officiez sous le pseudonyme Fashion Quiche et vous êtes devenue une référence pour comprendre comment la mode peut aussi être le reflet de courants politiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Amélie Zimmermann, j'ai besoin d'un moment franglais avec vous, pour nos auditeurs. Sur les réseaux, en ce moment, il y a deux figures de tendance qui font surface, la clean girl ou le old money. Donc pour nos auditeurs pas très Instagram, comment vous définissez d'abord la clean girl ?
La clean girl, c'est une jeune fille qui arbore un maquillage tout à fait naturel, discret, mais à la fois très travaillé. Mais il faut surtout que le monde n'en sache rien. Il ne faudrait surtout pas qu'elle soit trop superficielle, qu'elle passe trop de temps devant son miroir, et elle donne ses tips, ses conseils sur les réseaux sociaux pour que les autres filles puissent se maquiller comme elle.
Et elle fait beaucoup de yoga, de pilates, elle a un chignon impeccable.
Tout à fait, si je peux me permettre. Et un plaquage impeccable aussi.
Exactement. Et le style old money.
Le style old money.
Vieil argent.
Oui, vieil argent. Ça sonne moins bien, mais c'est un courant esthétique dans la mode. Deux mots, Ralph Lauren. Toute l'iconographie des publicités Ralph Lauren avec ses familles joyeuses, souvent blanches, riches, dans les Hamptons, col V, couleur bleu marine. Voilà, c'est ça, c'est la discrétion dans le luxe, c'est le côté old money. Ouais.
Et pourquoi la figure de la clean girl, la fille propre, est rétrograde en fait pour les femmes selon vous ?
Elle est rétrograde parce que déjà elle illustre une injonction très paradoxale qui est très présente dans l'existence corporelle des femmes, c'est-à-dire qu'il faudrait être apprêtée, soignée, être comme il faut, tout en ne passant pas trop de temps à son apparence, ne pas prendre trop de place. En fait, c'est lié à des valeurs et une tradition d'élégance très bourgeoise, des valeurs autour de la pudeur, de la tempérance, de la discrétion. Donc il y a un côté très conservateur en effet.
Que ce soit en haute couture ou en prêt-à-porter, on a l'impression en ce moment que la couleur disparaît. Alors, c'est pas votre cas, Jeanne Friot. C'est le sacre du beige, du noir. Qu'est-ce que ça raconte ? Il faut rentrer dans le rang, Amélie Zimmermann.
Oui, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que ça fait écho à une période de crise. C'est vrai qu'en général, dans les périodes de crise, les vêtements en pâtissent et les couleurs aussi. Je pense que c'est aussi illustré, pas que dans le prêt-à-porter et la couture, aussi dans les marques bon marché, par exemple Pretty Little Thing.
Qui est de la fast fashion, c'est un mastodonte de la fast fashion, c'est ça ?
Exactement, et qui a connu très récemment un rebranding qui a changé de direction artistique totalement, jusqu'au logo. Le logo qui est maintenant en lettres cursives, très élégante, très chic, très comme il faut. Pretty Little Thing qui était connu pour ses tenues très exubérantes, des robes moulantes, courtes, colorées. Et aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, je me suis baladée sur le site, on voit surtout des tons beige, rose pâle, lin, avec des mannequins minces mis en avant, alors que Pretty Little Thing était connu pour son catalogue inclusif.
Vous avez consacré une de vos vidéos au relooking de l'extrême droite. Comment les figures de l'extrême droite d'aujourd'hui retravaillent-elles leur image vestimentaire pour paraître plus acceptable ?
Alors, les figures de l'extrême droite se sont réappropriées le costume après les années 80 où les skinheads se sont beaucoup emparés des blousons tartans, etc. Aujourd'hui, pour faire signe d'une certaine moralité, ils utilisent le costume, mais à la fois, Jordan Bardella, il est très partisan du col roulé. Il ne va pas porter la cravate, par exemple, ce qui est intéressant à noter, pour démontrer une forme de coolitude dans l'attitude corporelle.
Comment le discours conservateur sur la mode, il se propage en ligne ? Je pense à une figure qui est celle des tradwives, qui sont c'est les femmes traditionnelles, j'ai envie de dire traditionnalistes pour nos auditeurs, qui derrière des contenus en apparence anodins, en fait, prônent une idéologie ultra-réactionnaire, c'est ça ?
Complètement. C'est des femmes qui se mettent en scène dans tout le stéréotype du féminin, dans des attitudes de douceur, en train de préparer à manger pour leur mari, pour leurs enfants. C'est une mise en scène extrêmement bien calibrée, qui est plutôt connue aux États-Unis, mais qui s'implante aussi en France. Je pense à une vidéo de Gaëlle Garcia-Diaz, qui est une créatrice de contenu française.
Suivie par des centaines de milliers d'abonnés, oui.
Exactement, qui était plutôt connue pour son franc-parler. Elle est belge. Qui était connue pour son franc-parler, ses tatouages et son côté punk, et qui, il y a quelques semaines, a posté sur Instagram une vidéo où on la voit tout de blanc vêtue, avec un brushing impeccable, jouer avec ses enfants dans un pré. Ces vidéos et ces esthétiques ne sont pas inoffensives, elles veulent dire quelque chose, elles font passer des messages dans l'imaginaire collectif.
Alors, culte de l'élégance discrète et aussi retour de l'extrême minceur lors de la dernière Fashion Week, les experts se sont indignés face à l'extrême maigreur des mannequins. C'est le règne aussi de l'Ozempic sur les réseaux sociaux, donc c'est un médicament qui est destiné aux diabétiques et qui est détourné pour la perte de poids. Et puis cette semaine, Zara UK, le site Zara britannique, a banni deux photos de mannequins jugées trop maigres. Comment vous, Jeanne Friot, en tant que créatrice, vous expliquez le retour de cette imagerie d'un corps souvent décharné ?
Je pense qu'elle a jamais disparu, en fait. C'est juste qu'on nous a un peu washé en disant « Regardez, on a mis deux femmes qui font du 40 sur le show, c'est cool, voilà. » Mais cette esthétique, elle a jamais disparu. Moi, je regarde les magazines que j'avais quand j'avais 15 ans et ceux d'aujourd'hui, on a les mêmes femmes dessus. On a peut-être deux femmes de couleur et deux femmes qui font du 40, mais c'est un peu l'exception qui dit « Regardez, on a changé. » Donc là, c'est comme les vêtements beige et les jolies chemises et tout ça. C'est un peu un moment où on se permet de revenir aux basiques de la société, et c'est cela apparemment.
Il y a eu pourtant, vous l'avez un peu évoqué, Jeanne Friot, mais il y a eu un mouvement qu'on appelle le body positive dans les années 2010, où on a vu des corps censés être gros qui n'étaient pas, c'était du 38-40 qui est la taille normale. Est-ce que c'était un moment hypocrite selon vous ? C'était du washing ?
Je pense pas qu'il était hypocrite à l'origine, je pense qu'il a été récupéré par les marques et qu'à partir du moment où on capitalise sur une mode de corporéité, ça ne peut rien donner de bon. Certes, je pense qu'il a fait du bien malgré tout, et le fait qu'on revienne à un corps maigre, décharné, c'est aussi le retour de bâton de ça, comme toujours dans l'histoire féministe. Moi, ça me fait toujours penser à ce moment dans les années 70, après la seconde vague féministe. Il y a eu ce qu'a appelé la théoricienne de la mode Naomi Wolf, le retour de bâton de la beauté, parce que les femmes ont eu accès à certains postes, etc. Il a fallu trouver une manière de contrôler les femmes de manière encore plus pernicieuse, et c'est par le corps, par l'apparence, toujours que ça se joue. Aujourd'hui, après cette période body positive et après MeToo, le moment où les femmes ont littéralement dit « moi aussi », eh ben, il faut qu'elles redeviennent maigres et qu'elles prennent le moins de place
rien
possible.
Ouais, que rien ne dépasse, parce qu'un corps décharné, c'est un corps aussi qui ne se défend pas.
Qui n'a pas l'énergie.
Qui prend pas beaucoup d'espace dans la place.
C'est ça.
Alors, une petite note positive pour finir l'émission. Amélie Zimmermann, face à cette vague de fonds conservatrices, il y a l'émergence de contre-mouvements stylistiques qui peuvent faire barrage. Je pense à Jeanne Friot qui est avec nous. Est-ce qu'en miroir, en rejet, l'autre clan s'émancipe des codes, Amélie Zimmermann? C'est-à-dire, est-ce que en miroir, il y a une réaction
bien
et
sûr,
une opposition qui est en train de se créer?
C'est ça qui est intéressant dans la mode d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un rapport à son apparence, de par les réseaux sociaux, mais aussi par la démocratisation de la mode. Donc aujourd'hui, dans la mode, il y a des hybridations qui apparaissent. Et aujourd'hui, l'an dernier, on était en plein dans le Brat Summer. on a le retour en masse de l'Indie Sleaze, un mouvement esthétique des années 2010, très rock, très punk, qui met à l'honneur le fait d'être finalement fêtard, etc.
Bordélique
Messie, littéralement. Ouais. Donc évidemment que ça peut coexister et encore heureux.
Cette émission touche à sa fin. Alors les vacances, c'est bien, mais avec le bon livre, la bonne série, le bon podcast, c'est encore mieux. On met quoi dans la valoche? C'est le kit de survie culturelle. Jeanne Friot, une autrice lesbienne à lire absolument.
Monique Wittig.
Lequel? S'il n'y en avait qu'un pour commencer.
Corps lesbien.
Amélie Zimmermann, une créatrice à suivre sur les réseaux sociaux.
Eh ben, un duo de créatrices illégales blondes sur YouTube, c'est Claire Roussel et Florence Fortune. Elles sont trop chouettes.
Et elles parlent de quoi?
Elles parlent de mode, justement. Elles déconstruisent le rapport à l'apparence, de politique. Elles ont même parlé d'intelligence artificielle, de fast fashion, etc.
Vos différentes recommandations du kit sont évidemment à retrouver sur le site de Radio France. Merci à toutes les deux, Jeanne Friot. Vos créations et les t-shirts du dernier défilé sont à découvrir sur le site jeannefriot.com et sur vos réseaux sociaux. Amélie Zimmermann, vous portez sur Instagram et YouTube le doux nom de Fashion Quiche. On vous retrouve aussi à la rentrée dans une série intitulée Miroir, Miroir, en collaboration avec Grazia Magazine. Une enquête en plusieurs vidéos sur les nouvelles pratiques de beauté des femmes. Joyeux et joli mois d'août à toutes les deux, qu'ils soient bien sapés. C'était le Mac de l'été avec Louise Tempero, Tarana Touri et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission, Étienne Bertin et Étienne Quesnel à la réalisation, assisté d'Amazi Ramadan Guest, à la technique Corentin Rouchy.